Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
C'est la dernière partie d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est ensemble jusqu'à 15h dans Estelle Midi avec Rémi Barré, Thierry Moreau, avec également Laurent Dandrieux et Pierre-Édouard Magnan. Et puis vous, bien sûr, au 32-16 pour agir à notre dernier débat. Faut-il interdire les boîtes de nuit en centre-ville à cause des nuisances? On attend bien sûr tous vos témoignages. 14h30, ce sera RMC s'engage pour vous. Et Amélie Rosic qui va tenter d'aider Germaine, une auditrice qui est en bisbille avec son opérateur téléphonique. On terminera avec les immanquables. Rémi, vers 14h40, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui, il y avait quoi?
On parlera du classement des musiques les plus écoutées en 2022 en France.
Michel Sardou.
Je suis pas sûr que ça va plaire beaucoup. Non, c'est sur Spotify.
Je suis sûr que je connais pas.
Je suis pas sûr que ça va beaucoup plaire à Laurent.
Je suis pas sûr que je vais connaître.
Je vous ferai découvrir tout à l'heure.
Ouais.
On parlera de la première femme qui va arbitrer un match de Coupe du Monde.
Stéphanie Frappard.
Ouais, oui. C'est aujourd'hui. Et puis, on parlera également, je sais que ça te plaît, tu sais, des bouteilles liquides qu'on n'a plus le droit d'emmener en avion. Ça va peut-être changer.
Ils vont hausser le contenant. Oh, c'est génial.
On va ça peut-être. Enfin, une grande nouvelle.
Oui.
Le monde va bien. C'est Estelle Midi.
Oui, alors.
C'est pas des titres. Rien à voir avec le classement des
musiques. Le jet, pour parler des boîtes de nuit, c'est osé. C'est-à-dire que là, on est en train de parler à que des gens qui ont plus d'un certain âge. On aurait pu mettre une musique un peu plus.
On a l'âge de César Père.
Oui. Bon, alors en tout cas, pourquoi est-ce qu'on met Thierry Hazard? C'est parce qu'on va parler des boîtes de nuit et de cette décision qui fait polémique dans la ville de Metz. C'est celle du maire François Grosdidier qui souhaite interdire les boîtes de nuit en centre-ville à cause des nuisances qu'elles génèrent. François Grosdidier, qui était l'invité de Charles Magnin ce matin, écoutez. Bon, eh ben écoutez, on va pas l'écouter, mais en gros, il était pas content.
Non. Et je peux te dire, le maire de Metz n'est pas content du tout, en effet, en raison des nuisances, tu l'as dit, provoquées par les boîtes de nuit en centre-ville. Enfin, les nuisances, on les connaît, c'est le bruit, c'est le tapage nocturne, les incivilités, les bagarres, mais aussi la pollution, enfin, les détritus laissés à terre, etc. Et cette décision du maire, en tout cas, cette annonce faite par le maire, d'une possible fermeture des boîtes de nuit en centre-ville, il n'en veut plus. Eh bien, ça n'a pas manqué de faire réagir l'UMI, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, dont dépendent les discothèques, qui dénonce les propos du maire de Metz. Selon le président de l'UMI Nuit, tenter de fermer ces établissements ne réglera pas les problématiques liées à la sécurité, mais ne fera que les amplifier. Il évoque des propos irrespectueux pour les 22 000 salariés et 10 000 agents de sécurité de ces établissements. Des propos irresponsable également envers la jeunesse. La gestion de la nuit par des professionnels étant, selon lui, un atout pour la société française en matière de prévention, de sécurité et de santé publique.
Les boîtes de nuit?
Oui, parce qu'il dit que s'il n'y a pas les boîtes de nuit, les jeunes continueront à boire, à faire la fête, mais d'une manière totalement incontrôlée dans les rues. Tandis que là, c'est encadré.
D'accord.
Des propos, c'est ce qu'il dit. Des propos archaïques aussi pour l'UMI, alors que les ventes d'alcool dans les établissements de nuit représentent 8% du total de l'alcool vendu en France. Ce qui, selon lui, rend absurde le fait de pointer du doigt les discothèques pour ces débordements. D'autant, et ça c'est vrai, que le secteur va mal. La mise à l'arrêt total des discothèques durant la crise Covid en a fait l'un des secteurs les plus sinistrés, selon la profession. Un quart des boîtes de nuit sont menacées aujourd'hui de disparaître. Et s'il existe environ 1600 discothèques de nuit aujourd'hui en France, il y en avait 4000 dans les années 80.
Ah oui, donc ça fait une énorme baisse, évidemment. Faut-il interdire les boîtes de nuit en centre-ville, Pierre-Édouard Magnan?
Alors moi, spontanément, non, depuis la fin de mes études.
Vous êtes contre l'interdiction en général?
Je suis, mais alors d'abord parce que je suis convaincu que ça ne marche pas. Après, non, mais ça doit s'organiser. C'est-à-dire que effectivement, si vous mettez des boîtes de nuit au milieu de quartiers résidentiels ou pas loin d'un hôpital, c'est évidemment n'importe quoi. Il faut organiser les choses, et là-dessus, il y a un certain nombre de villes qui ont fait des choses très intéressantes. Moi, j'ai des souvenirs quand j'ai organisé des soirées en boîte de nuit quand j'étais étudiant.
Ah, vous avez fait ça?
Ça datait. Oui, j'ai fait ça. Alors, parfaitement.
Il y a longtemps.
C'est sympa.
Pas si longtemps que ça, Thierry. Et donc, en fait, il y a certaines villes qui ont, parce que le problème des boîtes de nuit, les boîtes de nuit font venir des jeunes, créent aussi de la vie. En plus, avant d'aller en boîte de nuit, on va en bar, on va manger au restaurant.
À 3h du matin, créer quoi comme vie?
Les gens ne sortent pas de chez, ne se réveillent pas à 22h30 pour rentrer en boîte à 23h. Ça crée de la vie dans les bars, ça crée de la vie dans les restaurants. Après, il faut organiser les choses et aménager la ville. C'est-à-dire que il faut mettre des boîtes de nuit dans des quartiers, un peu définis. Derrière, on va faire évoluer l'habitat. C'est-à-dire qu'en fait, qui va habiter dans ces quartiers-là? les gens qui vont en boîte de nuit, qui ne sont donc pas gênés. Derrière, ça permet.
Ces quartiers, vous faites rêver.
Derrière, ça permet.
Vous vendez du rêve.
Pas des ghettos.
Des ghettos de jeunes.
Mais pas du tout dans la ville d'Amiens. Ils ont fait ça. C'est pas des ghettos fermés avec des murs. C'est que dans les boîtes de nuit, on peut parler des rues de la soif.
Les gens vivent au sous-sol.
On peut parler des rues de la soif.
C'est terrible.
Ah si, la rue des Canettes à Paris, c'est génial.
Non, mais c'est terrible.
Lille ou Rennes pour les plus connus.
Oui, bah, et bah Lille justement. Alors,
Lille, tu la connais bien.
Non mais je la connais très bien. Mais
celle de Paris, c'est très.
Non mais surtout que c'est la rue Masséna à Lille. Surtout, moi j'étais étudiant à Lille dans les années 90. J'ai connu le quartier avant l'arrivée de cette multitude de cafés et de discothèques.
C'est très sympa.
Non, non, mais oui, mais je peux te dire que le quartier avant c'était un quartier résidentiel, assez bourgeois, mais tranquille. Et les gens qui habitaient là à l'époque, aujourd'hui, ils sont tous partis.
Oui, bah oui, parce qu'ils ont eu des enfants et ils sont partis. Et après,
oui, et
voilà.
Et du coup, qui habite là? Des jeunes, des étudiants, des usagers des boîtes de nuit, ce qui permet de gérer la sécurité et l'aspect sanitaire. Et par exemple, je vous dis que la ville d'Amiens, par exemple, j'ai cet exemple-là parce que moi qui suis normand, c'est pas très loin de chez moi. Parce qu'il y a un moment, sinon, on met toutes les boîtes à l'extérieur. D'abord, on va créer aussi des problèmes
comme
de sécurité en termes de route. On envoie tout le monde dehors. Vous savez, c'est l'éternel problème des jeunes. Les jeunes, on les veut parce qu'ils font de la vie, mais les jeunes, on les veut pas parce qu'ils font du bruit. Il y a un moment, il faut faire un choix.
Mais moi, j'ai une idée. Déjà, c'est parce que moi, je ne comprends pas pourquoi les boîtes de nuit sont ouvertes à partir d'une heure du matin. Alors que on ferait des boîtes. Qui va en boîte à 23h? Enfin, des gens de votre âge.
Ceux qui ouvrent la boîte qui organise les soirées.
Alors que vous feriez des boîtes de nuit pour gens qui ont plus de 40 ans à partir de 20h.
Ça s'appelle un dancing.
Vous les fermez à 1h.
Ça existe.
Un dédansant.
Ça existe.
Et en plus, les gens dépenseront parce qu'ils ont un pouvoir d'achat parce qu'ils
plus
ont plus de 40 ans.
Oui,
voilà.
Ça
s'appelle
le dédansant.
Non, c'est pas un dédansant.
Dédansant, c'est 70 ans.
Vous pourriez faire des boîtes de nuit.
C'est 15h le samedi.
Des boîtes de nuit pour cadra.
Le problème, excusez-moi, il n'est pas la boîte de nuit, il est la gestion de l'arrivée et de la sortie. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui arrivent quelquefois se font refuser l'entrée parce qu'ils sont alcoolisés et donc ils font du bruit dans la rue. Et la sortie, une fois qu'ils s'en vont, ils sont quelquefois alcoolisés et ils font du bruit.
Ils sont tout le temps alcoolisés.
Donc en fait,
pas seulement. Non, mais t'as eu la révolution tabac, t'as eu la révolution.
Je voudrais juste terminer. Parce que la réglementation, elle est extrêmement précise. Pas plus de 105 décibels dans les boîtes. Et surtout, quand il y a des logements autour, il ne faut pas qu'il y ait plus de 3 décibels dans les logements qui sont autour des boîtes de nuit. Donc c'est extrêmement réglementé. Moi je suis comme toi, j'ai pas envie d'avoir des villes musées où il y aurait que des gens qui viendraient dormir avec la paix. Simplement, il faut bien gérer l'arrivée et la sortie des gens qui vont en boîte
mais
de nuit.
Mais comment tu fais? Tu vas mettre des flics pour pas parce
non,
que
non, mais il faut des vigiles, il faut des gens à l'extérieur qui gèrent l'après et l'avant boîte de nuit et c'est pas toujours le cas. Et souvent, les patrons de boîtes de nuit se défaussent en disant « c'est pas nous, c'est dans la rue ». Moi, j'ai habité dans une rue où il y avait un restaurant qui était un peu bruyant. Bon, de temps en temps, il y avait un petit peu de bruit, ça arrivait pas très souvent. Souvent le week-end, donc c'est pas non plus tous les jours. Ça se gère. Mais effectivement, il faut gérer l'avant et l'après.
Vigile,
et
ça quoi, se quand il y a un mec bourré qui a envie de se battre, il se bat avec lui, ça fait du bruit.
Bah, il appelle les flics à ce moment-là.
C'est pas une solution.
Ah oui, mais ce que je trouve,
c'est qu'en fait, on a délocalisé un certain nombre de choses aux périphéries des villes, dont les centres commerciaux. Je vois pas pourquoi on délocaliserait pas aussi les boîtes de nuit.
Parce qu'après, comme il l'a dit très justement, il faut y aller, il faut en revenir. Et donc on prend sa voiture. Et quand on a bu, on peut pas la prendre.
On avait eu un débat sur l'alcool à la sortie des boîtes de nuit sur ce même plateau. Et un gérant de boîte de nuit avait dit très intelligemment, moi j'ai mis en place un système de navette. Il y en a une qui part toutes les 20 minutes, toutes les demi-heures, je sais plus. Voilà. Et ce système-là me paraît beaucoup plus malin que d'essayer de gérer une situation qui de fait est ingérable. Et je pense que le maire de Metz, s'il dit ça, c'est qu'il se base sur des faits répétés.
Il y a eu beaucoup d'incivilités, notamment
plus,
des bagarres. En fait, c'est
si
ça qui le gênait,
si
c'est des
compris,
bagarres.
Lui, il en a 3 dans la même rue, donc c'est que ça doit pour les
riverains. Au moins, c'est concentré, on sait où on va.
Pour les riverains, ça doit être absolument invivable.
Alors justement, tiens, il y a Chloé qui nous appelle de Bourg-en-Bresse dans l'Ain et elle est riveraine d'une boîte de nuit. Bonjour Chloé.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans Estelle Midi, Chloé.
Avec plaisir. Donc moi j'ai 38 ans, j'habite depuis un an en hypercentre et j'ai acheté en face d'une boîte de nuit qui était fermée suite aux différents confinements et qui devait devenir des salles de séminaire.
Oui.
Et pas du tout. Et donc ça fait un an que j'ai emménagé et un an que je ne dors plus.
Mais à cause de quoi? À cause de la musique ou à cause des gens qui sortent et qui rentrent dans cette boîte?
Alors des basses, de la boîte de nuit et aussi des gens qui ne respectent absolument pas les riverains et ce qui se passe dans la rue. C'est-à-dire qu'ils sortent, ils se battent, ils crient, ils défèquent, ils vomissent, ils jettent des bouteilles, des verres. Leurs ordures, des mégots, des cotillons, enfin tous les goodies qu'ils peuvent avoir en soirée. Et en plus d'être une rue qui est, c'est dommage parce que c'est en hypercentre, c'est joli, c'est voilà, ça devient une rue sale. Et puis c'est surtout qu'ils font un tel bazar qu'on ne peut pas dormir. Je ne dors pas du mercredi au dimanche matin.
Mais Chloé, après c'est peut-être idiot ce que je vais dire, mais vous n'êtes pas allé voir le gérant de la boîte de nuit en lui expliquant, je veux dire, ce que vous vivez. J'imagine que vous n'êtes pas la seule à être incommodée par ces, oui, par ces nuisances. Donc vous devez avoir des groupements de riverains et vous devriez quand même pouvoir réussir à avoir gain de cause et à obtenir, comme disait Thierry Moreau, que des vigiles fassent un peu la loi à la sortie de la boîte.
Alors on a fait appel à la mairie. Qui est allé rencontrer le gérant.
De Bourg-en-Bresse. Hein.
Oui, monsieur Debat. Et puis, il y a la mairie qui est allé rencontrer le gérant, et le gérant a dit, on fait tout ce qu'on peut, mais on est en gros plus responsable des gens une fois qu'ils ont quitté la boîte de nuit. Ça veut dire qu'ils font le ménage devant la porte d'entrée, mais à 2 mètres de chaque côté, c'est leur problème.
C'est ça qui est lamentable.
Et vous, évidemment, ça rappelle un peu le film Nous irons tous au paradis, qui, quand ils achètent une maison au moment de la grève des aéroports, alors qu'il y a des amis qui passent au-dessus, et Chloé, la pauvre, elle a acheté une maison pendant
Chloé, elle a raison.
Il n'y avait pas de boîte de nuit.
Chloé, elle a raison. Le patron de la boîte de nuit ne peut pas s'exonérer du fait que ça se passe à plus de 2 mètres de la porte.
Mais concrètement, il fait comment?
C'est ingérable.
Pas la loi.
Chloé, est-ce que vous avez pensé à déménager à cause de ça?
Non, parce que j'aime mon appartement et j'espère qu'un jour, très sincèrement, que cette boîte de nuit fermera, non pas parce qu'elle aura, elle sera en liquidation judiciaire ou quoi que ce soit, c'est pas le problème, mais qu'elle fermera et que ça deviendra un commerce de jour. Et que voilà, parce que c'est dommage quand même d'acheter, de se plaire à l'endroit où l'on est, mais d'être embêté toutes les nuits.
Vous avez pensé au seau d'eau, Chloé?
Je suis déjà descendue pour aller m'expliquer avec certaines personnes, ouais.
Et ça s'est passé comment?
Alors, il y a des gens qui s'excusent et qui s'en rendent tout simplement pas compte et qui quittent la rue. Il y a des gens un peu plus vindicatifs et là, la police intervient. Mais c'est quand même dommage d'appeler la police pour ce genre de problème alors qu'il y a des choses bien plus graves qui se passent ailleurs, quoi.
Merci beaucoup en tout cas Chloé pour ce témoignage, parce que c'est vrai qu'on a parlé beaucoup du bruit et des bagarres, mais il y a aussi la saleté effectivement. Vous sortez de chez vous, il y a des détritus, et c'est ce qu'elle dit, voilà, les gens vomissent, enfin c'est quand même c'est hyper sale. Et encore, quand vous avez un hall, enfin vous êtes dans un hall en immeuble, vous pouvez aussi trouver des gens qui vont se réfugier dans le hall, enfin c'est voilà, effectivement ça peut être un enfer pour les riverains. Thierry Fontaine est notre invité sur ce dossier, c'est le président de la branche Nuit à l'UMI, principal syndicat de l'hôtellerie restauration, et vous êtes propriétaire également, Thierry, de 2 discothèques et de 2 restaurants à Lyon. Bonjour.
Tout à fait. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Alors, j'imagine que vous avez entendu le témoignage de Chloé. Et c'est vrai que voilà, sur le plateau, tout le monde est plutôt pour garder des discothèques en centre-ville. Mais ça peut être d'énormes nuisances pour les riverains.
Mais
quand
non,
même.
Écoutez, moi j'entends Chloé, elle est adorable. Elle a acheté une boîte de nuit pendant le confinement. Son vendeur, forcément, il lui a pas dit oui, c'est une boîte de nuit, ça reste une boîte de nuit. Il a fait croire c'est devenir des salles de séminaire. Bon, c'est plus facile
c'est
à vendre. Tant pis, je veux dire. Mais on ne peut pas acheter... On a systématiquement en France ce genre de cas où les gens achètent au-dessus, en face, à côté d'une boîte de nuit et ensuite se plaignent du fait qu'il y a une boîte de nuit autour. Enfin, on le sait, on se renseigne. Chloé, il fallait pas qu'elle fasse confiance à son vendeur. Il fallait qu'elle aille peut-être voir la boîte en disant « Est-ce que vraiment vous allez devenir une salle de séminaire ?»
Ouais, mais alors ce que vous dites, Thierry, c'est qu'en fait, c'est invivable de vivre à côté d'une boîte de nuit. C'est ce que vous venez de dire.
Non. Je répondais à Chloé sur un point précis.
D'accord.
Ensuite, il y a 2 choses. C'est pas 105 décibels dans une boîte de nuit. Maintenant, c'est 102 décibels. Il y a en effet des études d'impact pour que il y a aucune nuisance chez les voisins. On n'a pas le droit à 3 dB d'émergence. C'est ridicule.
Au niveau de la musique.
Au niveau de la musique. Sur les incivilités. En effet, une boîte de nuit se doit de gérer sa clientèle. Et on le fait en général. C'est pas dans tous les quartiers non plus. Nous, à Lyon, ça se passe quand même plutôt bien. J'ai plein d'exemples de villes où ça se passe très, très bien en France.
Oui.
Donc, faut pas généraliser et jeter l'opprobre parce qu'il y a 2-3 établissements qui fonctionnent pas très bien sur l'ensemble d'une profession. Mais aujourd'hui, moi, j'ai des quartiers là où je vous parle. Je suis autour de moi, c'est une porcherie. Pourtant, il n'y a aucune discothèque à 600 mètres à la ronde.
Mais ça n'a rien à voir. Non, mais Thierry Fontaine, ça n'a rien à voir.
Il y a des coins où c'est sale.
Oui, bien sûr. Mais le matin,
on trouverait toujours plus sale ailleurs.
Moi, je veux bien vous, Thierry Fontaine, je comprends vos arguments, mais après, vous n'allez pas me dire que aux alentours d'une discothèque, c'est propre le matin. Vous pouvez pas me dire non plus que les gens sortent pas. D'accord, mais enfin, c'est pas propre. Mais c'est pas nécessairement propre non plus.
On nettoie. Si quelqu'un vomit, en effet, on jette un seau d'eau. On a une notion du bien vivre ensemble qui est essentielle. Sur la gestion de la clientèle dehors, Je vous rappelle qu'un agent de sécurité privé n'a pas le droit d'agir sur la voie publique.
Mais c'est un problème, mais c'est un problème pour les riverains, Thierry Fontaine. Moi, je comprends qu'il faille que vous gagniez votre vie avec les boîtes de nuit.
Non, mais nous n'avons pas le droit, c'est la loi qui nous interdit. C'est-à-dire que si demain, un de mes agents de sécurité se fait attraper dans la rue, c'est une amende et une fermeture administrative. Donc ça, il faut que il faut que les préfets autorisent les services de sécurité internes à la boîte de nuit à agir dans un périmètre défini. Et ça, j'invite les préfets à le faire.
En effet,
ça va aider les discothèques à régler les problèmes autour de l'établissement. Mais aujourd'hui, on les coince parce que s'ils interviennent, on leur dit vous êtes intervenu sur la voie publique, donc on vous ferme. Donc du coup, quand ils envoient en disant ils sont dans la rue, c'est notre problème, c'est la vérité. Il faut que les préfets aillent dans ce sens et qu'en effet, on travaille main dans la main à régler ces problématiques de nuisance quand il y en a, bien sûr. Je suis désolé, je finis juste mon propos.
Oui, allez-y.
J'ai entendu tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'il faut envoyer des boîtes de nuit extérieures, bien sûr. Et recréons des multiplex comme il y a 30 ans.
Le Métropolis,
le Macumba,
l'Acropole,
le Club des Clubs.
Ah, voilà, mais c'est fini, ça c'était il y a 30 ans.
Ça c'est fini. J'y ai passé beaucoup de temps, vous savez.
Mais moi aussi.
C'est quoi le problème?
Aujourd'hui, ces boîtes
extérieures. Pourquoi ça ne fonctionne pas?
Parce que les jeunes, aujourd'hui, ils veulent rentrer avec des bottes doux, ils veulent rentrer en trottinette, ils veulent rentrer en taxi, ils veulent rentrer à pied. Un taxi, quand vous revenez d'une boîte extérieure, ça vous coûte une centaine d'euros, alors que quand vous êtes en ville, ça coûte 20-25 euros. Donc, les jeunes, ils vont dans un bar.
Il faut mettre des navettes, c'est ça aussi, Thierry Fontaine. Il faut que les gens soient inventifs.
Pour les ramener où, à quelle heure? Il y a plein de jeunes.
Pour les ramener où, chez eux?
L'accidentologie, elle est là. L'accidentologie, elle est là. Et vous avez une notion de fonds de commerce.
Vous semblez dire que c'est une minorité qui ne fait pas attention, justement, gère mal. Qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que président de ce syndicat, pour agir sur ces minorités qui ne respectent pas les gens dehors?
Alors déjà, on n'est pas un syndicat de mauvais élèves. Donc quelqu'un qui, de toute façon, ne va pas dans le bon sens, c'est-à-dire que nous, on est là pour les aider, les accompagner. Quelqu'un qui veut ni aide ni accompagnement, au bout d'un moment, on ne le défend plus. C'est-à-dire que moi, quand ils se retrouvent devant le préfet ou devant le maire pour des sanctions, si en effet, nous-mêmes, professionnels, on se dit, le mec qui s'en fiche royalement, c'est le pognon avant tout, on ne défend pas ça. On ne sera jamais un syndicat de mauvais élèves.
D'accord.
Mais en effet, on est là pour accompagner, faire comprendre. Il y a une notion de fonds de commerce, quelqu'un qui a une propriété commerciale. D'un coup, on ne lui dit pas, tiens, tu perds ta propriété commerciale et tu pars ailleurs. Non.
D'accord.
Si vraiment le maire de Metz est contre les boîtes de nuit en centre-ville, il ne faut pas les menacer de fermeture. Il faut leur dire, écoutez, moi, je vais vous racheter vos fonds de commerce. Oui, en effet. Oui. Et on va mettre d'autres activités à la place.
Alors, je ne crois pas que ce soit son souhait. Rémi, vous avez plein de messages.
Oui, messages de témoignages, comme celui de... Est-ce que je retrouve le prénom? Voilà, Jérémy, qui nous écrit sur Direct Studio et qui défend les boîtes de nuit. Il nous dit bonjour à tous. Moi, j'ai été agent de sécurité pendant pas mal de temps en boîte de nuit. Je peux vous garantir qu'on devait faire taire les personnes alcoolisées dans toute la rue. Dire que les agents de sécurité, ils sont 10 000 en France à travailler dans les boîtes de nuit, dans le milieu des boîtes de nuit. Dire que les agents de sécurité s'en fiche du bruit dehors, c'est complètement faux.
Ils s'en fichent pas, ils peuvent rien faire. Malheureusement, c'est ça, c'est ce qu'expliquait aussi Thierry Fontaine. Julien est avec nous, il nous appelle de Clermont-Ferrand. Et Julien, il est DJ. Salut Julien.
Salut SL, salut tout le monde.
Julien, vous pourriez aller travailler en périphérie?
Non, du tout.
Ah bon? Vous travaillez en centre-ville?
On est en plein centre-ville, ouais. Alors, il y a des inconvénients, j'ai écouté, mais il y a aussi beaucoup d'avantages. Nous, les clients, nous disent on préfère consommer un verre de moins et rentrer chez nous en VTC. Va chercher à l'extérieur.
Ça, c'est pour les grandes villes, parce qu'il n'y a pas les VTC partout non plus.
Oui, mais il n'y a pas que les VTC, il y a les Uber, il y a c'est beaucoup plus pratique. Les jeunes nous le disent, nous, on est en centre-ville, on a du monde justement à cause de ça. On serait à l'extérieur, c'est pas sûr qu'on aurait autant de monde. Et après, en centre-ville, les établissements restent quand même beaucoup plus petits qu'en extérieur. Quoi.
Oui, c'est beaucoup plus petit, mais les gens font quand même du bruit.
Les gens font du bruit. Si un portier à l'entrée, un agent de sécurité refuse une personne, c'est qu'il le sent pas. Si cette personne fait du bruit, il a bien une raison, du moins. C'est compliqué, quoi. Mais après, nous, on est en centre-ville, on est très bien en centre-ville, et j'espère qu'on restera un maximum de temps en centre-ville, quoi.
Et qu'est-ce qui vous gênerait dans le fait d'aller travailler en périphérie? Parce que ça pourrait être des boîtes. Là, vous dites, c'est plutôt un club qui est assez petit. C'est vrai que en périphérie, on a tous le souvenir d'énormes clubs où il y avait des milliers et des milliers de personnes, un peu la David Guetta quand il va mixer. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait être Ibiza en centre-ville. Ça. Vous, en tant que DJ, ça vous excite pas?
Non, du tout.
Ah bon, écoutez, très bien.
Moi, c'est différent. Je travaille, c'est la boîte de nuit de mes parents, donc on est dans un milieu familial. Nous, c'est une boîte de nuit familiale. Je me vois pas dans un gros truc, un gros complexe avec 50 salariés. Moi, Là, on est bien, on est 6 ou 7, on est très bien,
cosy,
c'est une petite famille, c'est, on est cool, c'est, on a une bonne réputation, moi. Ouais, ça me fait pas kiffer un gros truc, quoi, avec 3000 personnes, quoi, non.
Ah, d'accord, moi, bah écoutez, c'est un choix, je veux dire.
Avec 200 personnes, moi, je suis bien où je suis. Oui, après, c'est un choix, hein, c'est un choix. Hein.
Merci Julien qui est DJ à Clermont-Ferrand. Andy nous appelle de Paris, il est directeur de boîte de nuit. Salut Andy.
Salut.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes basé où à Paris, Andy?
À côté du, enfin, j'étais basé à côté du pont Alexandre III, sous le pont Alexandre III.
Ah oui, je vois, d'accord.
Oui,
ok.
Voilà.
Vous avez eu des problèmes de nuisance des riverains qui se sont plaints? Parce que là, il y a moins de riverains.
Non, il y a beaucoup de riverains, il y a les péniches. Il y a les péniches.
Ah oui, c'est vrai. Ah oui.
On avait beaucoup de péniches. Et nous, on avait l'inverse, par exemple. C'est-à-dire que nous, on avait des gens qui nous téléphonaient pour nous dire qu'on faisait du bruit sur des jours de fermeture.
Oui, c'est embêtant. Donc, c'était pas vous, en fait.
Exemple. Voilà. Ou sinon, quand on nous dit, quand j'entends les débats, qu'on dit c'est sale, oui, effectivement, c'est sale. Les quais de Seine sont sales. Mais nous, on a nos gars qui, à 6 heures du matin, vont tout balayer la rue parce qu'il y a des jokers. Et puis, on a sauvé des vies. Il y a des gens qui voulaient se suicider. Les agents de sécurité sont intervenus sur des gens aussi.
Oui, enfin, c'est pas non plus tous les jours, vous voyez ce que je
Andy,
ça,
c'est...
Mais, bah, je veux bien que vous me disiez que vous sauvez des vies en tant que directeur de discothèque, mais c'est quand même pas l'essence même de votre métier.
Il faut
quoi.
Avoir une botte au bord de la Seine. Quoi.
Oui, voilà, déjà, oui. Mais surtout d'un aussi, il y a d'autres choses. Il y a plein de choses qui sont positives. Il y avait beaucoup moins de cambriolages aussi aux alentours, par exemple.
Ah bon? Pourquoi?
Ah, oui, parce que il y a des agents de sécurité sur toute la longueur. Si vous connaissez les lieux,
comme personne ne peut dormir.
Quand on voit des trucs un peu chelous, on appelle la police. Et il faut savoir qu'à Paris, les établissements de nuit sont gérés par une entité de la police qui s'appelle les cabarets et tout.
Oui.
On n'a pas les autorisations. Voilà, on n'a pas les autorisations sans jeu.
Et pourquoi c'était important pour vous d'être en centre-ville, finalement, Andy? Pourquoi pas en périphérie?
Mais parce que déjà, les gens qui sont en Paris centre restent à Paris centre. Les gens de banlieue viennent dans Paris, mais les gens de Paris ne vont pas à la banlieue. C'est pas vrai. Ça, c'est une
Les gens le faisaient avant, hein.
Avant?
À Paris.
Il y a toujours eu des établissements de nuit dans Paris.
Oui, mais il y avait beaucoup de grands clubs en périphérie de Paris où il y avait des milliers de personnes.
Malheureusement, moi, vous entendez mon accent, je ne suis pas parisien.
Oui.
Les gens de Paris ne sortent qu'à Paris. Je peux vous citer 25 établissements de nuit dans Paris qui sont réputés et les gens ne vont qu'à Paris.
Et ce serait difficile de changer les mentalités. Merci Andy, en tout cas, d'avoir été avec nous. On va remercier également Thierry Fontaine, notre invité sur ce débat. Ça va pas être facile de départager les pour et les contre. Rémi, interdire les boîtes de nuit en centre-ville, bonne ou mauvaise idée?
Non, il ne faut pas le faire, mais c'est très serré. 51%, comme tout à l'heure pour un autre sujet, mais 51% des personnes qui sont prononcées sur nos réseaux sociaux sont contre la fermeture des discothèques en centre-ville. C'est la marge d'erreur.
Ouais, mais et après, c'est vrai que si vous interdisez ce genre d'établissement, ça fait quand même effectivement des villes musées. C'est ce qu'on craint aussi pour Paris, notamment. Donc, ce serait quand même dommage. Faut que jeunesse se passe. Donc, nous, on n'a plus l'âge, mais bon, écoutez. Voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir été sur ce débat. Dans un instant, Amélie Rosy, RMC s'engage pour vous. Amélie qui va tenter d'aider Germaine. Germaine, elle est en bisbille avec son opérateur téléphonique. Une histoire de contrat, de déménagement. On vous explique tout dans un instant sur RMC.
RMC, midi 15h, Estelle Midi,
Estelle Denis.
14h30 sur RMC, RMC Story, et c'est le moment d'accueillir Amélie Rosic. RMC s'engage pour vous.
RMC, Estelle Midi,
RMC s'engage pour vous.
Et aujourd'hui, Amélie, vous allez venir en aide à Germaine. Germaine qui vous a écrit sur l'adresse rmcpourvous@rmc.fr.
Et oui, Germaine est une grand-mère comblée de 90 ans qui nous écoute. Après une vie de labeur dans le restaurant qu'elle tenait avec son mari, aujourd'hui elle vit entourée de sa famille dans un appartement à Lyon.
Une vie de labeur.
Et oui, une vraie vie de labeur. Et elle vit aujourd'hui entourée de ses petits-enfants qui font leur bonheur. Elle les adore. Et Germaine, elle est âgée, 90 ans, mais pourtant rien ne lui échappe. C'est elle qui, en début d'année, remarque une anomalie sur son compte en banque. Orange prélève deux fois son abonnement de ligne fixe. Ah. Pour l'aider, c'est son gendre François qui vient la voir très souvent, qui prend les choses en main. Il fait stopper les prélèvements, sauf qu'au total, l'opérateur a quand même facturé près de 400 euros de trop à la vieille dame.
C'est une erreur. Il n'a pas été pris en compte par Orange. Est-ce qu'il savait que c'était une dame âgée, 90 ans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, la situation, elle a perduré. Une erreur qu'on a laissé courir plutôt par négligence. Tout ce qui est injustice, c'est comme si, si je les ressentais moi-même. Hein. Je me suis dit, il n'y a pas de raison que, quand il y a une erreur comme ça, qu'on n'obtienne pas une réparation.
Oui. Sauf que Orange refuse de rembourser Germaine.
Mais pourquoi?
Ah, François a contacté le service client la première fois au mois de janvier. L'opérateur reconnaît l'autre perçu. Effectivement, il y a une erreur et accorde le remboursement. Rien ne se passe.
Deuxième fois,
Orange redit « Oui, on va rembourser ». Toujours rien. Troisième fois, l'opérateur change d'avis. Finalement, il rejette la faute sur Germaine, qui n'aurait pas déclaré ou mal déclaré son changement d'appartement quand elle est déménagée. Ah. Bref, après un énième courrier en recommandé resté sans réponse, son gendre François a donc décidé de faire appel à nous.
Mais quelle bonne idée, bien sûr, oui. Puisque vous avez un taux de résolution des cas qui avoisine les 99%. Et donc, Amélie, vous êtes allée à la rescousse de Germaine.
Oui, et quand on reprend un dossier, RMC s'engage pour vous. Vous le savez, c'est pas toujours le cas, mais quand même, on y arrive. Et là, en moins de 24 heures en l'occurrence, ça s'est passé. Le lendemain de notre appel à Orange, un conseiller a contacté Germaine, il a reconnu un dysfonctionnement. La totalité du trop-perçu lui sera bien remboursée, soit près de 400 euros. Et ça représente quand même un tiers de sa retraite mensuelle à Germaine. Donc un 1er décembre, ça tombe plutôt bien. Elle va pouvoir faire plaisir à ses petits-enfants pour Noël. Et donc on l'a appelée hier soir pour lui annoncer la nouvelle. Écoutez.
Moi, je suis heureuse aujourd'hui. Je ne vais pas le dire tout de suite à mes petits-enfants. Je me réjouis pour Noël, je vais pouvoir gagner mes petits-enfants. Rendez les gens heureux comme ça. C'est formidable. Je vous remercie beaucoup de tout mon cœur. À Noël, je penserai à vous.
Et nous aussi, on pensera à Germaine. Ouais, on l'adore. Nous aussi, on pensera à vous, Germaine, pour Noël. Et on est ravis d'avoir pu faire en sorte que vous gâtiez vos petits-enfants. Et puis, n'oubliez pas de vous faire un cadeau aussi, peut-être.
Ah, oh bah oui, c'est
un
autre
cadeau. Hein,
en tout cas, c'est déjà Noël chez Germaine. On a vu les images chez RMC Story. On n'est pas en retard. Hein. Le Père Noël sera bien accueilli. Hein. 1er décembre, la déco est déjà faite.
Eh oui.
Merci, Amélie. On parle de quoi demain?
Est-ce que vous vous souvenez d'Hervé qui avait contracté une complémentaire de santé pour des implants dentaires? Bon, on a résolu à moitié le dossier. C'est compliqué, mais c'est pas mal. Non, mais à moitié, mais je vous ai pas raconté comment. Toute une histoire, c'est Élise qui vous expliquera tout demain.
Génial, Élise Dangean demain. RMC s'engage pour vous. Merci beaucoup, Amélie Rosic. Dans un instant, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. On va vous donner le classement des titres les plus téléchargés sur Spotify. On va voir si on en connaît au moins un de ces 10. À mon avis, la réponse est non. Enfin, comme nous avons le chef du service culture de valeurs actuelles, peut-être que Laurent Mandrieux lui connaît ça. Et puis alors, une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on est contente, Amélie? Parce que sachez que les récipients de plus de 100 ml risquent bientôt de pouvoir être acceptés dans l'avion. Et on va pouvoir partir avec nos bouteilles de parfum de 500 ml.
Oh là là, on a dit qu'on faisait pas de remarques genrées. Hein.
Et alors?
Non, rien, c'est tout.
On va aussi pouvoir partir avec des bouteilles d'eau plus grandes pour les bébés. Voilà, je pense à ça.
Je m'en fous complètement.
Ouais, parce que vous êtes déjà loin, moi pas tout à fait.
Bah, je suis loin. Je les ai fait tôt, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Oui, chacun ses choix, vous savez. Dans un instant, donc, les immanquables, les infos qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui. À tout de suite sur RMC.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Vous êtes dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et c'est l'heure des infos qu'il ne fallait absolument pas rater aujourd'hui. Voici les immanquables.
RMC, Estelle Midi.
Les immanquables.
Et nous allons commencer, Rémi, avec le classement du jour.
Oui, la plateforme de streaming musical Spotify dévoile son classement des artistes les plus écoutés en France en 2022. Avec une tendance claire, le rap domine et les femmes restent à la traîne dans les tendances générales. Le troisième artiste le plus écouté en France sur Spotify en 2022, c'est lui.
Je crois que je t'évite alors que je m'haïs.
Voilà, il s'appelle Gazo, il a 28 ans, il a cartonné cette année avec son titre Die qu'on entend. Gazo.
Ah si.
Ouais, ça dit quelque chose.
Bah oui, mais fallait mettre le refrain.
Ah bah oui. Bon, Gazo, c'est pas moi qui fait la programmation musicale, mais Gazo devancé par Nino.
J'ai toujours rêvé d'être dans le top sur face à la jalousie.
C'est ce que j'allais dire.
Non, c'est pas le même.
On voit bien la différence entre les deux.
Oui. Bien sûr, on va passer pour Nino.
C'est vraiment des propos de boomer là, c'est
comme ça. Nino, j'assume. 25 ans, qui est devenu cette année le premier rappeur francophone à dépasser la barre des 200 singles certifiés.
Ça veut dire quoi?
127 singles d'or, 48 singles de platine et 25 singles de diamant.
Et comment on peut avoir 127 singles d'or?
Ah bah, des singles d'or, si, c'est en nombre de ventes. Donc, t'as un single d'or, voilà, c'est le cumul. Oui, évidemment.
Ah oui, parce que téléchargement, c'est gratuit. Ben oui.
Et le premier du classement, l'artiste le plus écouté sur Spotify cette année 2022, c'est lui.
Ça, c'est Jules.
Eh oui. Le Marseillais Jules, 30 ans, pour la seconde année consécutive. C'est le rappeur qui cumule le plus d'écoutes en 2022 avec plus de 4 millions de streams pour l'année écoulée.
On écoute ce genre de musique au service culture des valeurs actuelles.
En tout cas, une chose est sûre, que c'est pas moi qui téléchargeais tous ces gens, parce que ça, c'est pas du tout.
Mais en fait, ça fait partie de la culture.
Oui, après, oui, dans les jeunes journalistes, il y en a qui écoutent ce genre de musique, oui, mais moi, en tant que boomer, j'en suis resté aux Beatles, excusez-moi.
Ah, aux Beatles, oui, non, mais enfin, il n'y a pas de. Excusez-moi, Rémi, mais enfin, il n'y a pas de variété française. Sardou, il est où?
Très loin. Non, il arrive au fin fond du classement.
Et la première femme, elle est où?
Ah bah je l'ai pas là, mais je vais te la trouver. Je sais que ça arrive très loin.
Il faut bien comprendre que les personnes qui écoutent Jules, Nino, etc., ce sont des gens qui sont rompus aux plateformes et qui n'écoutent de la musique que sur les plateformes. Le Boléro de Ravel, qui est la musique la plus écoutée dans le monde et la plus vendue, bah, les gens ne l'écoutent pas forcément sur Spotify. Enfin, même pas du tout sur Spotify. C'est aussi simple que ça.
On peut même avoir
la consommation, enfin, le type de consommation va avec le moyen de consommation.
Oui, mais enfin, aujourd'hui, excusez-moi, qui a encore des CD? Personne, des cassettes. Ah bon?
Moi, j'ai des vinyles, moi, j'achète que des vinyles.
Oui, mais les vinyles, ça n'a rien à voir, c'est le truc un peu hype, tout ça. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, si je veux écouter de la musique, je vais aussi sur Deezer et Spotify. Et les gens de mon âge font ça, donc on devrait aussi se retrouver représentés.
Deuxième position.
Je viens de vérifier, et en fait, il n'y a pas une seule chanteuse qui arrive dans le top 10 des.
Juliette Armanet.
Non, c'est Angèle qui arrive.
Angèle, bah oui.
Qui arrive la première. Angèle, elle est mais loin de la dixième place. C'est la première. Elle occupe la deuxième position, suivie par Aya Nakamura.
La deuxième position
chez les femmes. Non, mais chez les femmes, elles sont pas dans le top 10. Elles sont loin de.
Eh ben, c'est bien dommage. Bon, passons. C'est extraordinaire. Passons à la polémique du jour.
Devant un parterre de religieux et de fidèles anglicans réunis dans la prestigieuse université de Cambridge en Angleterre, un chercheur a affirmé que le Christ avait un corps trans, un corps de transsexuel, ce qui a déclenché une vive réaction de son auditoire. Le jeune doctorant s'est notamment appuyé sur la représentation non érotique du sexe de Jésus dans l'histoire de l'art, qui nous exhorte à accueillir les prises de parole des personnes trans avec bienveillance plutôt qu'hostilité.
Non, mais on
et il n'a pas été désavoué par l'université.
Oui, bon, ça a créé la polémique quand même, Laurent Andrieux.
Oui, non, mais il était trans, il était vegan et transhumaniste aussi. C'est incroyable le niveau de délire qu'on peut atteindre. Je pense que si Jésus avait été trans, il ne serait pas arrivé jusqu'à la crucifixion. On l'aurait lapidé avant, à l'époque. Mais bon. Bah parce que c'était pas très tendance à ces époques-là, disons-le.
Il aurait c'est pas une histoire de tendance, enfin, Laurent.
Non, mais il aurait pu être absurde. En plus, l'argument, c'est de dire, regardez la plaie faite par la lance sur son corps, qui a une forme vaginale, qui a un rapport entre une plaie et l'identité sexuelle.
C'est délire
absolu.
La phrase exacte, c'est qu'effectivement, la blessure sur le côté prend une apparence résolument vaginale. Ce qui est quand même assez. Ce qui est assez fou, c'est que les représentations du Christ, on le sait, elles sont diverses et variées. Elles ont changé en plus au fil du temps.
Sûr.
À l'époque de Léonard de Vinci, on l'a fait plutôt plus jeune qu'avec le fameux Salvator Mundi, plutôt plus jeune qu'il était. Ensuite, avec Rembrandt, c'était un peu Monsieur Tout-le-Monde. Et puis surtout, au tout début, excusez-moi, mais il était aniconique. C'est-à-dire que Saint Augustin voulait qu'il n'y ait pas de représentation du Christ, parce que justement, il était impossible de le représenter. Donc tout ça, c'est.
Et puis il est certain qu'un jeune juif du 1er siècle de notre ère, et de la sienne en l'occurrence, ne risquait pas d'être transgenre ou même hermaphrodite, puisqu'il n'aurait pu naître qu'hermaphrodite de manière naturelle et devenir transgenre au 1er siècle, ça me paraît délicat. Il n'aurait pas été rabbi, puisque c'est ce qu'il était, au-delà de la dimension religieuse et des croyants dans lesquels je ne rentrerai pas. Donc c'est complètement ridicule, ça ne tient pas debout. Et s'il veut développer le message de l'évangile, il n'a pas besoin de transformer Jésus en transgenre pour faire sa lecture du message évangélique, que là, après, chacun peut lire librement.
Tout à fait.
Rien compris. Mais
c'était clair. Pas besoin de représenter pour accueillir tout le monde.
J'étais déjà concentré sur l'info d'après.
On te prépare un cours d'exégèse biblique.
C'est vrai. Quand je t'en ai parlé, je sais que tu étais ravi. Les récipients de plus de 100 millilitres contenant des liquides vont-ils de nouveau être autorisés dans les avions ? C'est possible. Le gouvernement britannique envisage de généraliser des scanners 3D de dernière génération qui permettent d'afficher une image plus claire du contenu d'un sac. Ce pourrait être fait dès la mi-2024 en France. Des tests sont en cours.
Ma vie va changer. Qu'est-ce qu'il y a d'arrivant?
Il n'y a rien sur les évangiles. Je ne sais pas pourquoi ça vous met en transe.
Mais parce que c'est insupportable, cette histoire des 100 millilitres. Vous passez, vous allez voyager en avion, vous passez votre vie à regarder si c'est 100.
Alors, mais vous mettez dans votre valise en soute et puis voilà.
Ah, mais jamais. Mais je ne veux pas mettre ma valise en soute si jamais elle est perdue. Enfin, vous savez. Non, mais,
vous ne mettez jamais votre valise en soute.
Ah non, jamais. Non, je voyage.
C'est Estelle qui est la cause de cette modification de la réglementation.
Je voyage avec ma valise. Et je peux vous dire qu'elle fait les dimensions. Je veux dire, chaque millimètre est étudié. Je plie mes affaires de telle manière que ça prenne le moins de place possible. J'ai acheté des petits contenants, vous savez, en silicone. Mais bien sûr, pour que ça prenne le moins de place possible et que ça se torde dans les vêtements et tout.
Elle transfère son dentifrice dans un truc en pression.
Évidemment que je transfère mon dentifrice.
Mais quand vous partez trois semaines, vous avez toujours qu'une valise cabine.
Non, non, bien sûr. Là, je prends mon sac.
Mais quand tu pars pour la journée, tu vas pas mettre ton bagage en soute.
Mais même quand on est une semaine, je pars avec un bagage en soute et je mets un point d'honneur non en soute, en cabine. Mais si vous voulez, en fait, c'est insupportable. Déjà, les fabricants qui font des contenants de 120 millilitres, je ne comprends pas. Enfin, ça, c'est quand même un truc, je ne comprends pas, je trouve ça totalement idiot. Donc derrière, vous êtes obligé de transférer. Tandis qu'effectivement, quand ces contenants pourront faire 125 millilitres, ce sera quand même beaucoup plus pratique. C'est une avancée.
C'est
vous en rendez pas
moi
compte.
Moi, je me réjouis pour. Je me
moi,
quand
Jésus transgenre, oui, bon, ça n'a pas marqué ma journée, mais c'est content de 100 millilitres. Là, pour le coup, je trouve ça formidable.
Non, mais pas... Surtout, mais Estelle ne nous dit pas la vraie raison, c'est qu'elle va enfin pouvoir recommencer à prendre des petites bouteilles de vodka quand elle prend l'avion.
Bah non, parce que celle-là, elle passe. Ouais. Puisqu'elles font moins de 100 millilitres.
Mais non, mais des grandes. Quand je dis des petites.
Je n'aime pas la vodka. Le succès du jour.
Succès pour l'opération de récupération d'armes non déclarées lancée vendredi dernier pour une durée d'une semaine. Ça s'achève donc demain par le ministère de l'Intérieur. Quelques 65 000 armes et 1 600 000 munitions ont déjà été déposées par les particuliers dans les commissariats, les gendarmeries ou d'autres points de collecte à travers toute la France.
C'est quand même dingue ce succès, Thierry.
C'est normal parce qu'on on récupère tous par héritage le vieux fusil du grand-père ou du truc. Moi, quand j'ai acheté la maison, par exemple, que j'habite actuellement, bien dans le four à pain, il y avait des centaines de munitions. Donc j'ai pris toutes ces munitions, je les ai amenées à la gendarmerie qui m'a dit ah mais non mais fallait pas les transporter comme ça.
Bah non, finalement, ça
dans le four à pain, c'était peut-être pas la meilleure.
Je l'ai fait avant de l'allumer évidemment. Et donc
heureusement que vous avez vérifié.
Ils les ont prises pour destruction et j'ai signé une destruction, mais c'était compliqué parce qu'il fallait qu'ils trouvent le bon formulaire. Donc là, c'est une opération.
Grenade, vous touchez pas.
Le fait que maintenant il y ait une opération entre telle date et telle date, c'est très bien parce que comme ça, ils sont prêts à vous accueillir.
En fait, je pense que le succès de cette opération, ça témoigne du fait que beaucoup de gens ne savaient même pas qu'ils étaient censés déclarer. Et que donc, du coup, ça a été une piqûre de rappel pour ces gens-là qui, du coup, ont pris les choses en main.
Mais ce qui est assez fou, c'est quand même le nombre d'armes en France, parce qu'il y a quand même encore beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils peuvent aller le déposer au commissariat. Et là, on se dit qu'il y a un nombre d'armes en circulation qui est quand même assez hallucinant.
On ne peut pas y aller tout le temps, hein, comme le dit très bien Thierry. Là, ça permet de le faire. Mais je connais moi des gens effectivement qui ont hérité d'un fusil et qui ont voulu l'amener. La gendarmerie dit oh là là, surtout pas, transportez pas ça. Et qui sont du coup coincés parce que c'est pas qu'ils s'en servent plus, etc. Ce type d'opération permet d'eux et c'est très bien. Après, comme on l'avait dit au lancement de l'opération, il faudrait qu'on aille faire ça dans certains quartiers de Marseille. Je pense qu'on aurait beaucoup de succès.
Voilà, un camion belge.
Là, ce ne sont pas des armes de collection, voyez-vous.
On a une belle photo derrière toi, c'est pas vraiment une arme de collection.
Je suis pas sûr qu'ils les rendent volontairement.
Oui, c'est ça. Il faut toujours demander.
Mais il faut faire confiance à la nature humaine.
Avec des armes.
Le dialogue.
Il faut qu'on fasse confiance à la nature humaine.
Le dialogue et la concertation, bien sûr. Les excuses du jour, ça c'est énorme.
Ah oui, TF1 s'est excusé hier soir auprès de tous les téléspectateurs qui n'ont pas pu vivre l'issue du match entre la France et la Tunisie. C'est ballot, hein. Pendant que l'égalisation d'Antoine Griezmann était finalement annulé par l'arbitre pour hors-jeu après visionnage de la VAR, après le coup de sifflet final, la chaîne qui pensait le match terminé diffusait des publicités. Ouais. Les téléspectateurs n'ont découvert cette annulation du but qu'après, lors du magazine de l'après-match sur TF1.
Ouais, et TF1 en fait a décidé de saisir la FIFA également. Oui. C'est quand même fou, on n'avait jamais vu ça quoi.
Si. TF1 ils avaient déjà fait le coup.
Mais pas sur un but comme ça.
Ah non, pas sur un but, mais par contre de lancer la pub alors que le match n'était pas fini, ils l'ont déjà fait ça.
Alors là, ils l'ont déclenché juste après le coup de sifflet final. Et il s'est passé. Non, mais on est d'accord. Il s'est passé quelque chose après le coup de sifflet final. Donc, je ne vais pas défendre TF1, mais la logique, c'est qu'après le coup de sifflet final, on en envoie la pub. Simplement, ils le font un peu rapidement. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont vraiment le bouton sur le doigt sur le bouton et que dès
que. Pour être sûr que les gens aient pas le temps de se barrer et que la pub continue de se vendre pas cher.
Mais ça, c'est pas possible. Maintenant, t'as le Golden Spot, là, qui est juste avant les hymnes. Il y a de la pub partout et on est en train d'américaniser le sport. Moi, ça me désole, en vrai.
Commercialiser le sport.
Non, d'américaniser. Il y en a partout, il y a trop de pubs. Et vous savez que cette histoire de but, là, parce que l'équipe de France, en fait, fait une réclamation pour que le but de Griezmann soit accepté, mais ça pose un énorme problème également pour les sites de Paris. Parce que vous avez des gens qui ont parié, notamment, assez peu, sur la victoire de la Tunisie. Ils ont certainement été payés. Mais ceux qui ont mis match nul et qui ont perdu leur pari, notamment des combinés, par exemple, qu'est-ce que vous faites pour ces gens-là? C'est super compliqué.
Et en cas de match nul, la Tunisie n'était pas qualifiée.
Non, la Tunisie n'était qualifiée. Ben non, parce qu'ils n'étaient pas qualifiés.
Ils gagnent pour être qualifiés. Oui, mais du coup, ça change.
Non, ça change rien.
Ils étaient éliminés de toutes les manières.
Ils étaient éliminés.
Ils étaient.
Ils gagnaient. Ils pouvaient sauver leur.
Non. Ils étaient éliminés de toutes les manières, mais là ça pose aussi un problème pour les parieurs. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup qui disent la Fédé, qu'ils en ont à foutre, c'est vraiment pinaillé d'aller.
Il y a des conséquences financières.
Il y a d'énormes conséquences financières, mais enfin bon, pour TF1 c'est un peu ballot quoi.
C'est surtout la boulette.
Moi je regardais le match et j'ai pensé que c'était réglé, puis en fait derrière on dit non, le but il est annulé. Ah bon, d'accord. Donc non, c'était un peu.
Et il y a eu un communiqué, ce qui est très rare de la part de TF1, pour s'excuser auprès des TF1.
Oui, ils sont excusés en disant en même temps c'est pas de notre faute. Ils ont eu.
Oui, c'est vrai. C'est vrai,
le communiqué est un peu.
Non, mais c'est vrai qu'après, là où ils ont raison, c'est qu'après le coup de sifflet final, normalement, rien ne se passe. Mais si tu laissais un peu vivre, et parce qu'un match, ça s'arrête.
Il y a des images en plus après.
Il y avait de l'ambiance hier.
Les échanges de maillots entre les joueurs, tout ça.
Ouais, et puis il y avait de l'ambiance hier. Et puis France-Tunisie, voilà, ça a de la gueule quand même. Enfin, on sait qu'il y a une très forte
communauté
tunisienne en France.
De toute façon, au minimum, c'était très abrupt.
Voilà.
Si on veut en plus que le sport reste du spectacle, il faut aussi donner un petit peu d'avant, un petit peu d'après pour montrer l'ambiance.
Voilà. Allez, on va terminer avec mon coup de cœur.
Oui. Après avoir été la première femme à arbitrer un match de l'Euro masculin de foot, la Française Stéphanie Frappard deviendra aujourd'hui la première femme à arbitrer un match de la Coupe du Monde masculine. Ce sera à l'occasion de la rencontre entre l'Allemagne et le Costa Rica, annonce faite avant-hier par la FIFA.
Ça c'est génial, c'est quand même le signe que les temps changent. Et moi, que ce soit au Qatar et qu'une femme arbitre un match, je trouve ça assez formidable pour le symbole, Thierry.
Bah, c'est un message fort, parce qu'effectivement, on ne peut pas dire que ce soit le pays le plus évolué quant à la condition de la femme dans la vie publique.
Pour beaucoup, c'est pas le pays le plus évolué.
Et les deux arbitres assistants seront aussi des arbitres assistantes, si j'ai entendu l'information.
Exactement, mais il faudrait qu'il y en ait encore plus, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Stéphanie Frappard.
Ce sera formidable quand on s'en étonnera plus. Alors, il est normal qu'on s'en étonne et qu'on en parle.
Dans le milieu du foot, on s'en étonne plus. Enfin, pour moi, c'est une non-information. Mais
ça devrait être une non-information.
Oui, parce que les médias en parlent. Enfin, mais moi, qui suis pas comme tout, c'est un grand spécialiste du sport. Je l'avais entendu, je connaissais son nom et je le savais.
Exactement.
Et donc, c'est
elle officie en Ligue 1.
Elle, pour le coup, ça avait pas l'air de. Je l'ai entendu interviewer. Effectivement, elle
ça
avait l'air
de. Ça fait combien de temps que des femmes arbitrent des matchs d'hommes? C'est un peu.
Ça fait pas très longtemps, mais quelques années déjà. Mais en tout cas, en Ligue 1, voilà, elle officie depuis plusieurs saisons en Ligue 1 et ça se passe très bien. Et puis, elle a été sélectionnée pour la Coupe du Monde, donc c'est la preuve que c'est l'une des meilleures. Parce que vous sélectionnez pas les mauvais, a priori, pour la Coupe du Monde, c'est le Graal, évidemment, de tout. Les arbitres, on va se quitter sur cette info. Estelle Midi revient demain, midi 15h.